On commence ce magazine par la revue de presse des Hebdo. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
Tu ouvres la revue de presse de la semaine avec Télérama.
Juliette Serre, qui a interrogé l'invité de la semaine, le philosophe André Comte Sponville, dit de lui « Pessimiste ? Non. Heureux, car désillusionné. Disciple de Montaigne et de Pascal, marqué par plusieurs deuils, le penseur pratique une philosophie à l'ancienne, attentive aux mots, M-A-U-X, et aux mots, M-O-T-S, musical et accessible à tous. Lui explique, et ça nous touche particulièrement ici, sur ce campus, encore une fois, c'est Montaigne qui m'a aidé à devenir ce que je suis. Quelqu'un de modéré, terme que l'on m'a souvent reproché, qui peut passer à tort pour un synonyme de tiède. Montaigne en livre la juste définition. Un modéré, c'est quelqu'un qui est plus proche des modérés du camp d'en face que des extrémistes de son propre camp. Alors toujours à lire et à relire, Montaigne. La modération, même à Perpignan, où artiste et mairie RN cohabitent, c'est le dossier, en page 16. Mais pas la moindre modération sur les plateaux où sévit Cyril Hanouna, qui, je cite, « accumule les sanctions ». C'est à lire en page 10.
Le Canard enchaîné se montre-t-il plutôt modéré cette semaine ?
Ben écoute, c'est pas vraiment dans son ADN. Et la lecture de la une démontre plutôt une observation pugnace de l'action présidentielle. Effet de manche, Macron cherche à tourner la plage. Une combativité sans faille contre la droite et surtout l'extrême droite et ses acteurs. En France, avec Zemmour à la pêche aux euros. Et encore, le RN avale sa chapka. En Allemagne, où les bruns bouffent les verts, et partout dans ces pages, un talent à débusquer les petits et les gros couacs de notre société qui nous amuse ou nous indigne, toutes tendances politiques confondues. La page 3 est particulièrement riche en sujets qui indignent. Contre la crise du logement, une politique peu louable. Pour les locataires, ce sera ceinture. Difficile de trouver, dans les mesures annoncées le 5 juin par Elisabeth Borne, à l'issue du Conseil national de la refondation, le SNR, un espoir de freiner la grave pénurie d'habitations à louer qui s'annonce. Et encore, le Conseil d'État nie de lobbyistes, où on découvre avec stupeur, avec le militant écologiste Raymond Avrillier, les liens, pour le moins surprenants, entre le Conseil d'État et l'IGD. L'IGD, c'est l'Institut de la gestion déléguée, qui regroupe l'État et des représentants de boîtes nationales et privées, qui œuvrent dans le domaine de l'eau, du béton, des transports. Alors c'est à lire, vous verrez, c'est surprenant. Et il reste encore 5 pages poils à gratter qui n'incitent pas vraiment à la modération de nos réactions.
Et il semble bien que cette semaine, l'Express ne soit pas non plus un modèle de modération.
Tout au moins pas Abnousch Al-Mani dans sa chronique assassine intitulée « Justine Triet et Adèle Haenel disent tout simplement n'importe quoi ». Alors je la cite « Ce qui est désolant que plus... » Pardon, je reprends. Ce qui est aussi désolant que grotesque dans les discours de Haenel et de Triet est qu'elles disent n'importe quoi, ne se fondent sur aucune réalité. Car le cinéma français investit dans des films irregardables pour le commun des mortels depuis très, entre guillemets, trop longtemps. Elles font une crise de nerfs de bourgeoises culpabilisées qui se shootent à l'anticapitalisme comme d'autres se noyaient dans l'absinthe pour espérer tutoyer la muse poésie. Des propos, vous en conviendrez, qui ne sont pas vraiment modérés. Elle conseille, elle, en matière de création cinématographique. Alors je la recite. Au regard des succès publics de ces derniers mois, Top Gun Maverick, Avatar 2 ou encore Les Trois Mousquetaires, les spectateurs semblent au contraire nous hurler leur désir de film qui les décolle du réel. Non pas pour oublier ou pour s'abrutir, non, pour prendre le recul nécessaire, le souffle d'oxygène indispensable à la confrontation avec la réalité quand les lumières se rallument. Alors dites-moi, que choisissez-vous ? Hurler avec cette louve votre désir de film qui vous décolle du réel ou relire Montaigne ?
Ce numéro spécial du 1, conçu en partenariat avec l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université, sonde l'avenir des océans.
Et titre, les océans sont-ils notre avenir ? Parce que, nous précise Julien Bisson, l'avenir des océans est intimement lié au nôtre, ne serait-ce que par la place qu'ils tiennent face au réchauffement climatique, dont ils sont à la fois les victimes et une partie de la solution. Ce numéro, qui mêle enquête journalistique et explication scientifique, tente de nous faire comprendre ce qui se joue et sous les flots et sur les flots qui couvrent 70% de la surface du globe. Les océans sont à la fois le premier et le dernier des continents. Le directeur de l'Institut de l'Océan, Christophe Prazuc, analyse. Ce vaste domaine maritime présente un potentiel de développement considérable qui suscite la convoitise et exige donc de la vigilance. En mer, ce qui n'est pas contrôlé est pillé, et ce qui est pillé est contesté. La mondialisation est en réalité une maritimisation du monde. Un biologiste marin, Colomban de Vargas, parle de la jungle invisible. Désormais, on souhaite comprendre ce qui grouille dans ce vivant invisible et comment ces microbiomes fonctionnent et façonnent les écosystèmes, y compris les organismes visibles qui ne sont que la pointe de l'iceberg du vivant. C'est l'un des grands défis de l'écologie contemporaine. Un peu d'optimisme avec la climatologue Marina Levy. Le climat et la biodiversité doivent être pensés ensemble. Préserver le premier pour limiter l'effondrement de la seconde et préserver la seconde pour limiter le changement climatique et mieux s'y adapter. Mais peut-être êtes-vous comme Robert Solé et avez-vous une peur bleue des espaces liquides sans limite aux profondeurs abyssales, pleins de dangers et de mystères? Et voyez-vous les océans comme terriblement menaçants? Et le drame du petit navire qui n'avait jamais navigué vous est-il resté sur l'estomac? Et que malgré la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, on ne vous ôtera pas de l'idée que c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
Sur la couverture de Courrier International, ce n'est pas la photo d'une baleine, mais une gouache sur toile de Sun Woo Kim représentant un dodo.
Non, vous ne rêvez pas. C'est bien au dodo que nous avons choisi de consacrer notre une cette semaine, nous explique Claire Carrard. Et cela n'a rien de fantaisiste. Le dodo, ce volatile souvent décrit comme pâteau, qui a disparu de l'île Maurice après l'arrivée au XVIe siècle des premiers Occidentaux, aucun autre animal n'est aussi inexorablement lié à l'extinction que le dodo, rappelle CNN. C'est ce que raconte très bien l'article passionnant de CNET qui structure notre dossier. Le site américain spécialisé dans les nouvelles technologies a longuement enquêté sur Colossal, une start-up texane qui a récemment levé 150 millions de dollars pour tenter de faire revivre le dodo. Colossal s'était déjà fait connaître pour ses travaux du même type sur le mammouth et le thylacine. Et cette fois encore, la société crée la polémique avec son projet de désextinction. L'affaire ne se résume pas à une guerre entre paléontologues dignes de Jurassic Park. Une question éthique évidente se pose. Alors que la sixième extinction est en cours, pourquoi ne pas d'abord tout faire pour sauver des espèces en péril plutôt que de tenter de réanimer celles disparues dont on ignore si elles se réadapteront, se demandent les détracteurs du projet. À lire aussi en complément un étonnant récit sur le Frozen Zoo, le zoo congelé, de San Diego, en Californie. Alors un numéro surprenant et passionnant. Et si le sujet vous intéresse, suivez la controverse menée sur le site du Courrier.
Procrastinez maintenant, ne le remettez pas à plus tard. C'était votre devise Gémeaux et c'est fini. Rob Bresny vous annonce la fin de votre procrastination. C'est l'horoscope.
Tout ce que je voulais faire et que je n'ai pas fait m'a pris tellement de temps, des années à ne pas faire, écrit la poétesse Lee Upton. Si nous faisions le bilan des projets que nous avons réellement menés à bien, nous pourrions tous en dire autant. Cela étant, Gémeaux, j'ai le plaisir de t'annoncer que jusqu'à la fin de l'année 2023, tu redoubleras d'énergie et de volonté pour concrétiser enfin des envies que tu as trop longtemps reportées ou que tu pensais irréalisables. Pour clore cette période de l'inachevé, dépoussière deux projets en souffrance et prépare dès à présent ton plan d'action pour les réaliser.